Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le 1er mai dernier, un automobiliste était arrêté à la douane pour un contrôle. Après avoir prétendu ne transporter aucune marchandise, ce n'est pas moins de 300 kilos de viande, de bœuf, poulet et kebab qui ont été sortis de son coffre. Le gouvernement peut-il nous informer si cette marchandise était destinée à un établissement de la région? Et puis dans le cadre de contrôle d'un établissement, existe-t-il une corrélation entre les quantités achetées et ceux vendus permettant de vérifier l'approvisionnement de ce dernier? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Lagardère.
Jacques Delbert, président du gouvernement, je vous
remercie. Députés, pour répondre à votre question, monsieur le député, je dois vous dire que les douanes ne nous ont pas informés de ce cas précis. Nous l'avons appris malheureusement par la presse. Le service correspondant, donc le SCAV, a pris immédiatement contact avec la douane afin d'obtenir plus d'informations. Mais c'était déjà deux semaines après que les douanes aient découvert ce trafic de viande. Dès que cette information a été connue, le service de la consommation et des affaires vétérinaires a redéfini avec les douanes le mode opératoire concernant justement les marchandises interceptées afin d'être certain que les règles de traçabilité soient respectées, mais surtout que la chaîne du froid soit également respectée et que les marchandises ainsi saisies soient détruites. Je peux vous informer que la viande qui a été trouvée à la douane, selon les déclarations de la personne interceptée sur le rapport des douanes, était destinée non pas au canton du Jura, mais à un établissement sur Neuchâtel. Je me permets de rappeler, monsieur le député, que la traçabilité est une des exigences de la loi. Le commerçant doit pouvoir prouver l'origine de ses produits. Lors de contrôle, on vérifie les stocks et les bulletins de livraison en rapport avec ceux-ci. On collabore également avec les douanes lorsque l'on soupçonne ou que l'on nous dénonce des cas d'importation illégale. Et puis, le non-respect de la traçabilité peut entraîner évidemment la destruction de la marchandise en fonction des cas. Et en cas d'infraction répétée avec condamnation, évidemment, nous pouvons aller jusqu'au retrait de la patente pour le restaurant concerné. Les kebabs sont contrôlés, comme absolument tous les autres restaurants au niveau du canton du Jura. Donc, il n'y a aucun risque avec les kebabs. Il n'y a pas plus de risque avec les kebabs qu'avec les autres restaurants de la place. Il faut également savoir que le trafic de viande ne concerne pas seulement les kebabs. Il y a eu d'autres affaires qui concernent des bouchers ou des restaurants de la place. On peut donc, monsieur le député, juste conseiller aux consommateurs de toujours se renseigner sur l'origine de la viande. En tant que paysan, vous serez d'accord avec mes propos. Et aux restaurateurs, prioritairement, de s'approvisionner et d'acheter local.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député, Noël Saucy est satisfait. Nous passons à la troisième question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Alain Schwein-Groubert.
Alain Schwein-Groubert est député du PLR basé à Delémont.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, nous avons ouï et lu récemment dans les médias régionaux que le canton du Jura, à l'instar des cantons de Vaud et de Genève, avait décréter un moratoire sur les installations d'antennes 5G. Or, nous savons que les cantons n'ont absolument aucune compétence en la matière. Cela est exclusivement du ressort de la Confédération. Je pose dès lors la question au gouvernement de savoir quel est l'état de la situation.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Monsieur le député, votre question souligne des éléments importants et qui sont justes quand vous relevez que les cantons n'ont effectivement pas de compétence au niveau de la santé publique, puisque c'est une compétence de la Confédération, Ils n'ont pas non plus de compétences par rapport à l'ordonnance sur les rayonnements non ionisants. Par contre, effectivement, le département et le gouvernement, on a été informé, a décidé de suspendre quelques semaines toutes les procédures liées à la 5G en attendant d'avoir une situation plus claire au niveau de la Confédération, étant donné que la Confédération a à la fois lancé en 2018 un groupe de travail qui doit étudier les conséquences et, et les paramètres technologiques de la 5G par rapport à la fois à la santé publique et également à l'utilisation de la technologie qui est également attendue. Et en parallèle, la Confédération a vendu les concessions en demandant aux opérateurs ou en imposant finalement aux personnes qui ont acheté ces concessions de déployer le réseau rapidement. Donc en vertu de ces deux éléments qui sont un peu contradictoires, les cantons, en tout cas certains cantons, se sentent mal à l'aise pour expliquer comment est-ce qu'on peut autoriser une technologie et à la fois étudier si elle est dangereuse ou pas. Donc nous avons préféré suspendre les procédures quelques semaines. Nous avons également, avec le canton de Vaud et de Genève, et donc le Jura, écrit à la conseillère fédérale en charge du département du DETEC pour lui demander des éclaircissements en vue de savoir ce que la Confédération envisage de faire suite à cette situation qui également semble concerner maintenant d'autres cantons en Suisse qui également sont inquiets de voir une technologie se développer alors que le rapport sur les conditions sanitaires n'est pas clairement établi et met finalement une certaine incertitude, une insécurité auprès de la population.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Alain Schweinguber est partiellement satisfait. Nous passons donc à la quatrième question orale, et pour ça, je passe la parole à Madame la députée Françoise Chénia.
Françoise Chénia est députée PDC des Franches-Montagnes du Noirmont pour la quatrième question de cette matinée ici au Parlement jurassien. Il y en a donc au total 15 qui seront posées.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, la Confédération participe financièrement à l'assainissement des routes cantonales contre le bruit et ce jusqu'en 2022. 80% des routes cantonales jurassiennes seraient concernées, ce qui représente environ 360 km. Ces 360 km à assainir dans un temps relativement court pour bénéficier de l'aide fédérale, sans parler de l'investissement financier conséquent, nous interpellent. Le gouvernement peut-il nous indiquer si c'est un objectif qu'il s'est fixé et le cas échéant, comment compte-t-il y parvenir tout en donnant dans la mesure du possible travail aux entreprises jurassiennes libérées des travaux de la Transjurane ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Ministre de l'Environnement.
Madame la députée, effectivement, cette thématique du bruit routier est une thématique importante que le gouvernement prend à cœur. Et effectivement, les subventions fédérales actuellement ne sont possibles d'obtenir que jusqu'à fin 2022. Alors effectivement, nous avons une planification pour, au niveau cantonal, les 20 km de tronçons qui restent à assainir. C'est donc 20 km au niveau cantonal. Et bien évidemment que la subvention n'est pas non plus faramineuse, c'est entre 15 et 16%, 15% pour les études, 16% pour la réalisation de subventions. Par contre, il faut savoir qu'il y a une motion qui a été déposée aux Chambres fédérales, motion du sénateur Hesch, qui demande de prolonger la possibilité pour les cantons et les communes d'obtenir cette subvention. Donc nous avons également espoir de voir les Chambres fédérales accepter cette motion et donc donner un peu plus de délai aux cantons et aux communes pour réaliser ces assainissements. Maintenant, vous avez aussi parlé de travaux pour les entreprises. Sachez qu'il y a plusieurs façons d'assainir le bruit routier. La première, bien évidemment, c'est de changer le revêtement, de mettre un revêtement phono-absorbant. C'est un revêtement qui coûte un peu plus cher, qui ne dure que 10 ans, contre 15 ans pour un autre revêtement. Donc c'est une solution que nous privilégions dans certains cas de figure. Une autre solution est de poser des panneaux anti-bruit au bord des routes. Mais c'est une solution qui n'a pas encore été mise en application dans le canton du Jura, puisque cela gâcherait finalement également le paysage disponible pour les conducteurs. Et sachant le beau canton dans lequel nous ne sommes pas très favorables à la pose de panneaux le long des routes. Une troisième option qui est parfois utilisée, mais quand il n'y en a pas d'autre, c'est de limiter la vitesse, donc passer de 80 à 60, ou de 60 à 50, ou de 50 à 30. Ce n'est pas toujours très populaire. Une décision qui a été prise l'année passée a vu plus de 100 oppositions, alors que le cadastre du bruit démontrait qu'il y avait des mesures à prendre, alors que le conseil communal de cette commune était incorporé en faveur de, d'une réduction de vitesse sur un certain tronçon. Donc ce ne sont pas des mesures très populaires. Nous évitons de les prendre, mais parfois, il faut quand même le faire. Un autre cas en date, nous avons décidé donc d'étendre une limitation à la sortie d'une localité. Il y a eu des oppositions contre la décision et des oppositions également qui souhaitaient encore avoir une distance plus longue de limitation de vitesse. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas facile dans ce domaine-là. Et la dernière possibilité qui est malheureusement peu utilisée, c'est au niveau des automobilistes d'équiper leur véhicule de pneus ayant une incidence sonore plutôt faible, sachant qu'entre un pneu et l'autre, il y a parfois jusqu'à 4, 5, 6 fois plus d'émissions sonores qui est donc émise. Et là également, nous recommandons aux gens, quand ils changent de pneus, de plutôt acquérir des pneus qui sont moins bruyants que les autres. Et malheureusement, cette possibilité de réduire le bruit au travers des pneus n'est pas une possibilité qui a été mise en place au niveau de la Confédération de façon contraignante. Donc si on fait une similitude avec le CO2, les vendeurs de voitures doivent tendre à réduire l'émission de CO2 des véhicules. Par contre, les vendeurs de pneus n'ont pas d'incitation à tendre à réduire le parc pneu, si j'ose dire, à être moins bruyant. Et c'est peut-être là un axe que la Confédération pourrait développer pour également réduire la nuisance sonore du réseau routier et également réduire finalement les besoins d'investissement pour les collectivités cantonales et communales.
Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée François Chénien est satisfaite. Nous passons donc à la cinquième question orale et pour ça je passe la parole à Madame la députée Géraldine Beuchat.
Géraldine Beuchat, députée du PCSI de Glovelier.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, la situation de la ligne Bienne-Belfort a été jugée dubuesque, pire encore, d'échec commercial cinglant. C'est l'appréciation faite par les associations des usagers de transport ferroviaire en France voisine après les 6 premiers mois d'exploitation. Les principaux griefs sont la lenteur, la cherté, les horaires inadaptés, les mauvaises correspondances sur le tronçon français de la ligne. Même si l'on sait qu'au départ, une nouvelle ligne est rarement rentable, qu'il faut un certain temps pour qu'elle le devienne, il y a tout de même de quoi s'inquiéter si certains paramètres ne sont pas corrigés. Une des principales améliorations, par exemple, serait que les trains suisses puissent circuler jusqu'à Belfort. Il n'est plus à prouver l'importance de la réouverture de cette ligne, surtout dans l'articulation générale des transports ferroviaires entre la Suisse, le Jura en particulier, et l'Europe, mais aussi si l'on veut soutenir une mobilité responsable. Même si les décisions se prennent à un autre niveau que cantonal, le gouvernement peut-il nous renseigner sur ce qui est mis en œuvre pour améliorer la situation et si surtout il y a une volonté de changer la tendance? Je le remercie pour sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
On retrouve David Herret, ministre de l'Environnement.
Madame la députée, je commencerai peut-être par une bonne nouvelle, puisque le gouvernement français a annoncé dernièrement que l'achèvement de la LGV Rhin-Rhône, donc Rhin-Rhône-Méditerranée, serait revu, le calendrier, avec une échéance beaucoup plus proche que ce qui était connu jusqu'à présent, ce qui permettra donc à la gare Belfort-Montbéliard-TGV de devenir encore plus attractive et encore plus connectée sur le corridor Mer du Nord, Mer Méditerranée, de cet axe de train. Au niveau de votre question précisément, que déjà sachez que le gouvernement est très sensible et très inquiet de la situation puisqu'il souhaite vraiment que cette ouverture de ligne soit un succès. Toutes les réclamations qui parviennent à l'administration cantonale sont transmises immédiatement à la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'à la SNCF en vue de voir des mesures prises rapidement. Également, un comité de suivi a été mis en place, un comité de suivi international avec deux groupes qui se penchent. L'un sur l'exploitation, les problèmes d'exploitation, vous en avez parlé, les correspondances, les horaires, etc. Et l'autre groupe qui se penche sur la communication et la tarification, puisque là également, il y a des échos qui démontrent qu'au niveau tarification, cela ne semble pas correspondre aux attentes, en tout cas des voyageurs du côté français. Également, début du mois prochain, une réunion entre le canton du Jura, c'est-à-dire moi-même, et la région Bourgogne-Franche-Comté, avec le vice-président de la région en charge des transports, a été agendée à Dijon, pour également mettre sur la table tous les problèmes connus aujourd'hui et voir quelles solutions peuvent être prises à la fois au niveau suisse, au niveau de la région voire au niveau international, et sachant également que la région Bourgogne-Franche-Comté a un budget de 800 000 euros pour favoriser le transfert modal de la route vers le rail au sens large dans toute la région. Mais là également, on voit qu'il y a peut-être des possibilités pour la région d'agir, notamment auprès des usagers potentiels français sur cette ligne, ce qui pourra également renforcer l'attractivité et l'utilisation de cette ligne.
Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? La députée Géraldine Beuchat est satisfaite et nous passons à la sixième question orale. Pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Philippe Rotet.
Philippe Rotet, député UDC, qui vient de Delémont.
Enfin, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame, Messieurs les ministres, enfin, disais-je, et ce n'est pas trop tôt, l'affaire du faux psychiatre a trouvé son épilogue devant le tribunal fédéral. Cet individu a trompé tout son monde, patient, état jurassien, ainsi que l'assurance, puisqu'il a obtenu près de 400 000 francs pour incapacité de travail, alors que dans le même temps, il facturait des prestations remboursées par l'assurance maladie complémentaire. Joli tableau, vous en conviendrez. Cet escroc de nationalité française obtient l'aide sociale, c'est un comble. Quand est-ce que cette mascarade va prendre fin ? Peut-on s'attendre, Madame la Ministre, à ce que vos services fassent le nécessaire dans les plus brefs délais ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, ministre
Monsieur
de l'Intérieur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, effectivement, l'affaire que vous mentionnez à cette tribune a défrayé quelque peu la chronique. À ce stade, je dois vous rappeler que tant que le jugement n'était pas entré en force, nous devions d'assister cette personne qui est au bénéfice d'un permis C. Maintenant, la justice a fait son travail, a rendu son jugement et l'affaire suit son cours au niveau de mes services.
Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ?
Pas satisfait.
Monsieur le député Philippe Rotet n'est pas satisfait. Nous passons à la septième question orale et pour cela, je passe la parole à Madame la députée Danielle Chariat.
Danielle Chariat, députée PDC de Porrentruy, qui va nous poser ce matin la septième question à ces questions orales au Parlement jurassien.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, en parallèle à la construction de l'autoroute A16, des zones tampons ou bassins de rétention ont dû être aménagés afin de récupérer les eaux de chaussée de cette dernière. Ces bassins ont un rôle important en cas de gros orages ou d'accidents. Ils sont équipés de déshuileurs qui permettent de séparer les hydrocarbures de l'eau et ainsi d'éviter que des matériaux polluants ne se déversent dans nos cours d'eau ou nos sous-sols. Leur rôle n'est ici pas remis en question. Ils protègent notre faune et notre flore. Ces bassins sont aménagés de manière à les confondre avec des réserves naturelles. Ils attirent de nombreux promeneurs et sont un lieu de prédilection pour les divers batraciens et volatiles qui apprécient ces zones humides. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, ce sont en fait les volumes énormes de boue chargés de métaux lourds qui stagnent au fond de ces bassins et dont on ne sait que faire. Pour le seul bassin de la route d'Alle, ce sont quelques 2000 mètres cubes de vase qu'il faut dépolluer en 20 ans de service de la 16. Et il y a 17 étangs de ce type sur le territoire jurassien. Certes, je suis consciente que cette tâche revient à l'OFRU. Cependant, je me questionne sur les effets que ces boues peuvent avoir sur les promeneurs et surtout ce que nous allons en faire. Qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en œuvre afin d'inciter l'OFRU à dépolluer ces bassins de rétention et ce, de manière régulière ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée, pour la réponse du gouvernement. La parole est au ministre David Herret.
Ministre
voilà, Madame la députée, effectivement, le thème que vous évoquez est éminemment important puisqu'il s'agit de d'environnement et de nature. À ma connaissance, il y a 14 sites tels que vous les mentionnez. Et effectivement, dans ces boues résiduelles au fond de ces mares, nous retrouvons quelques matières qui ne sont pas très souhaitables dans la nature, telles que du plomb, du zinc, du cuivre, du cadmium, du chrome. Et toutes ces substances, bien évidemment, sont sous forme solide au fond de ces mares, puisque ce sont des métaux qu'on appelle métaux lourds, ils sont au fond. Donc, première information, ils ne sont pas en surface de l'eau et donc lorsqu'il fait chaud et que les promeneurs passent à proximité, ces métaux ne sont pas en fusion et il n'y a pas de gaz, de cadmium ou de chrome dans les environs pour les passants. Les métaux restent au fond, bien stockés dans les boues. Par contre, effectivement, l'avantage de ces étangs, c'est que les métaux lourds vont au fond et l'eau est plus ou moins propre, voire même assez propre, d'après les analyses que nous faisons. Donc ceci est une bonne nouvelle et une bonne démonstration que ces mares ou ces sortes d'étangs de décotation jouent bien leur rôle. Au niveau de l'A16, effectivement, depuis le début de l'A16, les boues ont déjà été traitées, hein, certaines fois. Dans certaines mares, on va régulièrement les extraire. Il y a déjà, à ma connaissance, 20 000 mètres cubes qui ont été traités. Cela signifie donc que lorsque nous extrayons ces boues, il y a un séchage qui est réalisé, séparation des différents éléments, un tri par rapport à l'analyse qui est faite, et bien évidemment une élimination selon la filière la plus appropriée. J'aimerais encore souligner ici que dans ces étangs, si on peut les appeler ainsi, il est strictement interdit de pratiquer de la planche à voile, de pratiquer du canoë, du kayak, de se baigner et de pêcher. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a eu, semble-t-il, un empoisonnement illégal qui a été fait dans certaines mares. Et il semblerait même que certaines personnes vont, malgré l'interdiction, pêcher des poissons. Il y a, semble-t-il, des carpes dans certains étangs. Donc ces personnes-là, non seulement commettent un délit puisqu'elles pêchent alors que c'est interdit, mais en plus de ça, il faut savoir que les carpes se nourrissent assez volontiers au fond des étangs. Donc elles vont remuer ces boues, elles absorbent probablement des métaux lourds. Donc les personnes qui commettent un délit en pêchant ces carpes et peut-être en les mangeant se mettent également en danger au niveau sanitaire et nous ne pouvons que les appeler à respecter l'interdiction, à ne pas pêcher et à l'ensemble des citoyens à ne pas jeter leurs poissons rouges ou leurs carpes dont ils veulent se débarrasser dans ces étangs.
Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée, Danée Chariat est satisfaite et nous passons à la 8e question orale. Et pour cela, je passe la parole à Monsieur le député Jérôme Corbat.
Jérôme Corbat, député du groupe Vert et CS Pop de Delémont, qui monte donc à la tribune pour la 8e question orale de la matinée.
Voilà. Mais non. Voilà. Pardon. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues. Ah, j'ai enlevé le capuchon du micro.
Voilà, c'est tout bon.
Pour des raisons que vous pouvez deviner, je ne relève et dépouille mon courrier qu'épisodiquement. Et l'aventure qui m'est arrivée dernièrement était singulière en ceci, c'est que dans cette pile de courriers, j'avais d'une part un courrier de l'Office des contributions qui m'informait, ou de la recette d'ailleurs, qui m'informait que mon dossier était transmis à l'Office des poursuites. Et dans la même pile, je trouvais un autre courrier du même service m'indiquant qu'ils avaient constaté qu'en fait, mon ordre permanent continuait d'être versé, il y avait un problème de référence, et que donc ainsi, les poursuites étaient annulées. Alors, ce dont je suis sûr, c'est que dans l'Office des contributions, il y a assurément un compte du contribuable Jérôme Corbat. Maintenant, la question qui reste, c'est de savoir si l'administration, le gouvernement respectivement, préfère enquiquiner le contribuable en écrivant tout azimut jusqu'à l'Office des poursuites, alors que le versement continue. Et ce qui m'incite à vous interpeller à ce sujet, c'est que quand j'en ai discuté autour de moi, je me suis rendu compte que c'était des quantités étonnantes de gens qui avaient eu à faire face à cette même problématique. Et s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, ne me répondez pas que c'est la faute de l'ordinateur, comme le fonctionnaire que j'ai eu à l'appareil à Crubon de m'indiquer, parce que ça sous-entendrait alors que le gouvernement préfère enquiquiner le contribuable plutôt que de programmer correctement ses ordinateurs. Je me réjouis de voir des manifestations de logiciels quand ils exigeront de votre part qu'ils soient utilisés correctement. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne saurais vous donner des détails concernant votre cas particulier, même si j'en avais. Vous comprenez bien que le secret fiscal dont vous ne m'avez pas délié ne me permettrait pas de renseigner toute la République sur votre situation particulière. Cela dit, monsieur le député, il y a quelques principes en comptabilité qui est notamment celui de l'annualité des comptabilités. Si bien qu'au début de chaque année, avec le premier courrier que vous avez reçu, comme l'ensemble des contribuables jurassiens, il vous a été rendu attentif et de manière très précise, parce que c'est chaque année que nous avons le même problème et nous avons encore insisté davantage cette année, pour que vous changiez justement les références dans votre ordre permanent, qui fait que tout pendant que vous ne changez pas vos références, ça vient comptabiliser sur l'année précédente concernée par les références sur lesquelles vous avez, vous faites votre versement. Et il faut chaque année modifier ces références pour pouvoir verser sur l'année en cours les tranches, notamment si vous avez un ordre permanent, eh bien, c'est une question technique. Donc, c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est simplement qu'il y a une information que ni l'ordinateur ni le taxateur n'est en possession, donc il ne pouvait pas imaginer ces éléments-là. Pourquoi, entre-temps, vous avez reçu un deuxième courrier? J'en sais rien, je me renseignerai. Mais simplement, je profite de cette tribune pour rappeler qu'il est important pour les contribuables, afin d'éviter justement ce genre de mésaventure. Puis ensuite, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous soyez après astreint à payer des intérêts compensatoires négatifs. Bon, taux de 0,1%, donc c'est pas grand-chose, mais enfin quand même, par rapport au fait que vous ayez versé vos tranches régulièrement, mais sur la mauvaise référence qui fait que ça nécessite du travail supplémentaire du côté de l'administration qui, je puis vous l'assurer, notamment dans le domaine des contributions, mais pas seulement, on a déjà suffisamment. Alors, si vous voulez donner un coup de main aussi à l'administration pour pouvoir traiter plus rapidement les différents dossiers, je vous invite vraiment à vérifier les références de vos bulletins de versement pour que, à l'avenir, les versements permanents que vous faites se fassent sur la bonne période fiscale.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation?
Je ne suis pas satisfait.
Monsieur le député Jérôme Corbin n'est pas satisfait. Nous passons à la 9e question orale et pour ça, je passe la parole à monsieur le député Nicolas Girard.
Nicolas Girard, qui est député socialiste du Noirmont, pour la 9e question orale de la matinée. Il y en a 15 au total.
Monsieur le Président, chers collègues, madame, messieurs les ministres, la lecture du résumé mensuel du mois de mars de notre police, paru dans la presse, m'a interpellé. On y apprend les différents types de contrôles effectués durant le mois écoulé. À ce stade, je me réjouis de toutes ces interventions qui font baisser le nombre d'accidents et rendent plus sûres les routes de notre canton. Aussi, je pourrais me contenter de simplement saluer le travail de nos policiers. Si une seule de ces actions permet à elle seule d'éviter un drame, l'opération peut être qualifiée de réussite. Ce qui a retenu mon attention, ce sont les chiffres concernant les contrôles des poids lourds. Ma première réflexion à chaud est évidemment directe. Comment se fait-il que la catégorie qui comptabilise un tiers d'infractions ne concerne qu'une trentaine de véhicules contrôlés en un mois, pendant que le radar crépite 16 000 fois pour moins de 5% d'infractions? Je ne peux évidemment pas m'empêcher de revenir sur les contrôles effectués sur les axes transalpins où se font examiner et arrêter des chauffeurs dans des situations dépassant tout entendement dans des situations extrêmement dangereuses, ceci dans les mêmes proportions que dans notre canton. De même que sur ces deux tiers des chauffeurs qui sont en règle, malgré que leur image est aussi ternie par ces tristes constats. Ma question, quelle est d'une manière générale la politique du canton en matière de contrôle routier? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
On retrouve donc la ministre de l'Intérieur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je souhaite relever en préambule que la police cantonale a un certain nombre de missions à remplir, dont le contrôle des poids lourds, et que le gouvernement jurassien n'entre pas dans les aspects dits opérationnels des activités de la police. Il n'y a donc pas, monsieur le député, comme vous l'imaginez, une politique cantonale générale en matière de contrôle des poids lourds. D'ailleurs, la police cantonale n'est pas totalement libre de ses agissements dans ce domaine, puisqu'une convention relative au contrôle du trafic des poids lourds nous lie depuis 2001 avec le DETEC pour un certain nombre d'exigences quant au contrôle à effectuer. Cette convention a pour but d'intensifier les contrôles du trafic poids lourd sur le territoire jurassien et de renforcer la sécurité routière en faisant en sorte que le plus grand nombre de chauffeurs respectent les prescriptions auxquelles ils sont soumis. Si on reprend peut-être les quelques statistiques dont vous avez fait part, on peut relever que la police cantonale effectue en moyenne 47 contrôles poids lourds par année, ce qui représente 430 véhicules contrôlés, 320 agents engagés pour 1500 heures de travail. En d'autres chiffres, chaque contrôle dure en moyenne une demi-journée et nécessite l'engagement de 6 à 7 collaborateurs. Ces contrôles ont lieu sur les axes principaux empruntés par les poids lourds, que ce soit sur la 16, les routes des Franches-Montagnes ou encore en direction de Bâle. Ces contrôles prennent évidemment du temps car il s'agit de vérifier toute une série d'éléments, le respect du temps de travail, l'état du camion, les papiers du véhicule, du chauffeur, l'arrimage des marchandises ou d'autres points encore. Il arrive qu'un véhicule doive être immobilisé séance tenante, soit en raison de sa dangerosité, soit en raison de l'état de fatigue du chauffeur. Sur les 5 dernières années, 27 véhicules ont été immobilisés séance tenante, soit une moyenne de quelque 5 véhicules par année. Les alcoolémies au volant sont relativement rares et la police cantonale n'en constate moins d'une par année. Voilà, monsieur le député, quelques chiffres qui méritaient d'être relevés. Je me permets d'aussi indiquer que le gouvernement a répondu de manière complète à une question écrite qui s'intéressait à cette problématique et qui avait d'ailleurs conduit là à ce que la police cantonale mette désormais en évidence les statistiques de contrôle liées au poids lourd. Le constat qui ressort ces chiffres est que la gestion du trafic poids lourd est sous contrôle dans le canton du Jura. En comparaison intercantonale, les poids lourds qui roulent dans notre région commettent relativement peu d'infractions. À cela s'ajoute le fait que la convention avec la Confédération pose des exigences élevées en termes de contrôle et que les accidents sur les routes jurassiennes qui impliquent des poids lourds heureusement peu fréquents. À ce stade et en conclusion, une augmentation du nombre de contrôles poids lourds n'est aujourd'hui pas à envisager et les actions menées par la police cantonale sont jugées des plus opportunes.
Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Nicolas Girard est satisfait et pour la 10e question orale, je passe la parole à Madame la députée Pauline Queloz.
Pauline Queloz, députée indépendante de Saint-Bray pour la 10e question orale de la matinée. Il y en a 15 donc au total.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues. Le 8 mai dernier, le Conseil national a entériné la réforme de la péréquation financière. Il nous a été confirmé que le canton du Jura perdra, dès le 1er janvier 2020, entre 10 et 15 millions de francs. Le canton du Jura est l'un des plus durement lésés, pour ne pas dire celui qui est le plus lésé, dans cette redistribution. Parallèlement à cela, le peuple suisse a accepté dimanche dernier en votation la réforme fiscale et financement de l'AVS qu'on a appelée RFFA. Dans le cadre de la campagne, notre ministre des Finances a soutenu avec force et vigueur cette réforme. Nous savons que cette réforme fiscale engendrera des pertes conséquentes pour le canton du Jura. Le gouvernement peut-il dès lors aujourd'hui nous indiquer quels montants seront perdus pour le canton, respectivement pour les communes jurassiennes, ou à tout le moins une estimation de ces montants, et comment entend-il les compenser ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Charles Juillard.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la réforme de l'imposition des entreprises que le peuple suisse a acceptée massivement le week-end dernier était indispensable pour préserver l'avenir économique de ce pays et en particulier aussi l'avenir économique de ce canton. Aujourd'hui, nous devons, et le travail se fait en commission, adapter notre propre législation. En ce qui concerne les chiffres, ce sont des hypothèses qui ont été élaborées sur la base des prévisions de la Confédération. Ils sont indiqués clairement dans le message adressé au Parlement. Aujourd'hui, ils n'ont pas été remis à jour de manière précise. Pour éviter de vous donner des erreurs, je vous renvoie tout simplement aux chiffres qui sont contenus dans ce rapport. C'est plus sûr que de vous donner des approximations qui ne seraient pas adaptées aux montants qui sont convenus. Ce qu'il est, l'ordre de grandeur, c'est effectivement quelques dizaines de millions entre 20 et 30 millions selon qu'on se situe à 17% ou à 15%, compensés en partie par d'autres prélèvements qui viendront se porter, par exemple sur la taxation des gains immobiliers en particulier, mais il y a aussi d'autres mesures qui sont prises. Tout cela est indiqué clairement dans le dossier. Il appartiendra donc à votre Parlement de définir. Et puis la facture finale dépendra justement de vos décisions ici. En ce qui concerne la péréquation financière fédérale, vous l'avez relevé, Madame la députée, les chambres fédérales ont été complètement sourdes aux différentes propositions que nous avons faites et avec insistance, y compris et appuyées par nos parlementaires fédéraux. Ici, et c'est tout l'ambiguïté du système, c'est que malgré le fait qu'on plafonne à 86,5% de la capacité des ressources par rapport aux moyennes nationales, nous allons, d'après les prévisions que nous avons reçues de l'administration fédérale des finances, d'ailleurs qui sont intégrées dans le projet de budget, et la CGF en a été nantie la semaine passée, eh bien nous allons percevoir 1 million de plus que l'année précédente. Alors vous me direz, vous nous avez enfumé avec ces chiffres. Aujourd'hui, même le BAC Basel, qui est l'institut de référence en matière de prévision en la matière, ne veut plus donner d'indication parce qu'il ne sait plus exactement sur quelle base il faudra faire des indications. Ce qui veut dire par là, c'est que si le système actuel avait perduré, plutôt que de plafonner à 86,5 de capacité de ressources, on était à 88,7 comme on l'est aujourd'hui, on aurait encaissé 7 à 8 millions supplémentaires. Mais nous avons en soi perdu 7 à 8 millions qui nous auraient permis de financer justement tout ou partie de la réforme fiscale qui est indispensable aussi pour nos entreprises, pour garantir les emplois et le développement de notre canton. Donc pour le résultat définitif et global, il faudra attendre la taxation à la fois des entreprises et des personnes morales en 2021 pour savoir combien ça va coûter, mais on pourra avoir des indications plus précises lorsque la commission parlementaire et le Parlement aura bouclé ce dossier. Je l'espère, c'est mon première lecture en juin probable, deuxième lecture après les vacances, c'est à ce moment-là qu'on y verra un tout petit peu plus clair.
Merci. Monsieur le ministre, Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Pauline Queloz est partiellement satisfaite et nous passons à la question orale numéro 11. Et pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Didier Spies.
On retrouve l'UDC avec Didier Spies, membre du parti de Kourou.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, le canton de Saint-Gall, déjà souple en matière de cannabis, a décidé de ne plus mettre à l'amende les personnes qui n'auraient moins de 2 grammes d'héroïne ou de cocaïne. Il se base ainsi sur la loi fédérale, laquelle stipule que préparer ces stupéfiants pour sa propre consommation n'est pas punissable. La nouvelle directive se base sur un article de la loi fédérale sur les stupéfiants qui est en vigueur depuis 2013. Celui qui se borne à préparer ses stupéfiants en quantité minime pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun, après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable. L'article de presse précise que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Pour l'héroïne et la cocaïne, la quantité a été fixée à 2 grammes, à équivalence de prix avec le cannabis, explique la porte-parole du ministère public saint-gallois, et cela est uniquement leur appréciation. À Saint-Gall, je ne recevrai donc pas d'amende avec 1 gramme d'héroïne et ou 1 gramme de cocaïne ou 10 grammes de cannabis que j'ai malheureusement pas avec moi, je l'ai utilisé pour préparer mon thé à la pause. Avec cette quantité de cannabis, vous pouvez préparer 20 à 30 joints et avec 2 grammes de cocaïne, entre 44 et 8 lignes. D'où ma question au gouvernement. Quelle pratique est valable pour le canton du Jura? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Nathalie Bartolo, ministre de l'Intérieur.
Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, la consommation de stupéfiants est un sujet pour lequel on ne peut guère et on ne doit guère plaisanter. Et je dois dire que votre jeu à la tribune n'est pas des plus joyeux. Ceci dit, concernant tout d'abord la consommation de cannabis, Ce que je peux vous dire, c'est que dans le canton du Jura, il y a une saisie qui est opérée dans tous les cas lorsque la police arrête une personne en possession de cannabis. Si la personne a plus de 18 ans et qu'elle a moins de 10 grammes et que la drogue est destinée à sa consommation personnelle, une amende sera délivrée. En dessus de 10 grammes, une amende sera dans tous les cas prononcée et une dénonciation au ministère public sera effectuée. Concernant ensuite les drogues plus dures, c'est-à-dire l'héroïne et la cocaïne, dans le canton du Jura, il n'y a actuellement aucune marge de tolérance qui est appliquée dans la consommation de ces drogues. Dans tous les cas, lorsqu'une personne est arrêtée en possession de tel type de stupéfiants, leur cas est dénoncé au ministère public et la loi sur les stupéfiants est strictement appliquée. Donc ce qui est pratiqué dans le canton du Jura est tout à fait conforme au jugement du tribunal fédéral.
Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ?
Satisfait.
Monsieur le député Didier Spies est satisfait. Pour la 12e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Lionel Montavon.
Lionel Montavon, lui aussi député UDC, vient de Courcelon.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, par voie de communiqué de presse du 16 avril dernier, le gouvernement informait la population que la CLAS, Conférence latine des affaires sanitaires et sociales, a donné mandat au programme latin de dons d'organes, appelé PLDO, organisme regroupant tous les hôpitaux des cantons latins impliqués dans le don d'organes, de mettre sur pied depuis 2018 des programmes de promotion du don auprès de la population. Si l'on se rend sur le site de la PLDO, on a alors accès aux référents par canton. La différence du nombre de personnes de contact par canton passe de la simple unité à 12 personnes, que l'on soit dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, à celui de Genève qui lui liste une bonne douzaine de coordinateurs et ou de référents par canton. En résumé, les chiffres sont les suivants. Genève 12, Vaud 10, Tessin 7, Valais 3, Fribourg 2, Neuchâtel et Jura un seul. Dans un aspect pratique, rien qu'en prenant en compte les congés, les maladies, les vacances et autres absences de la dite personne référente, la stratégie à une seule personne de contact pour tout le canton, telle que mise en place, permet-elle pour autant d'assurer aux patients jurassiens une prise en charge égalitaire face aux autres cantons? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre à la fois de l'économie et de la santé, mais aussi président du gouvernement jurassien.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, évidemment, je suis au courant de la campagne que nous avons lancée. Malheureusement, je ne suis pas parfaitement au courant de la situation par rapport au nombre de référents pour le canton de Neuchâtel et du Jura. Donc, suite à votre intervention, je vais me renseigner si un seul, effectivement, référent est à disposition ou s'il y a évidemment d'autres moyens également pour les jurassiens pour s'annoncer comme donneur ou pour aiguiller les gens dans le don d'organes. Mais évidemment, il y a d'autres organes également qui existent. Mais encore une fois, on va faire le point pour voir si on peut rallonger cette liste si nécessaire.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Lionel Montavon est partiellement satisfait. Nous passons à la 13e question orale et pour cela, je passe la parole à monsieur le député Thomas Stettler.
Et déjà la 4e question orale du groupe UDC ce matin, Thomas Stettler, député de Soyères.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues. Il y a quelques jours, le quotidien jurassien publiait un article sur la statistique des logements. Nul ne s'étonne du constat que la construction d'appartements connaît un véritable engouement. Si bien que les permis de construire ont quasiment doublé ces dernières années. Il est vrai que dans certaines communes, les immeubles locatifs poussent comme des champignons. Cette concentration d'activités dans quelques rares communes ayant encore des surfaces constructibles disponibles inquiète. Aussi, le taux de logements vacants ne cesse d'augmenter. Si bien que l'on risque de voir des communes jurassiennes tomber dans le piège, comme celle de Moutier, qui affiche aujourd'hui un triste record avec un logement vide sur 10. Construire, chauffer des logements vides, c'est une aberration écologique, économique et sociale. Le gouvernement partage certainement ma constatation, d'où ma question. Existe-t-il des outils pour freiner cette évolution visiblement déséquilibrée?
Merci, monsieur le député. Pour la prise de position du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre. Quel est le représentant du gouvernement qui va répondre? Monsieur David Herret. Monsieur le ministre David Herret.
C'est finalement David Herret, donc, ministre de l'Environnement, qui va s'y
Monsieur le député, effectivement, votre question est intéressante puisqu'elle touche à la fois l'aspect économique, l'aspect du développement territorial, développement des villages, développement des localités, développement des villes, et également, bien évidemment, l'emprise sur les terres, terres agricoles et les forêts et toutes les terres finalement nécessaires aux constructions. Je peux peut-être vous donner un élément de réponse par rapport à l'aménagement du territoire, où effectivement le plan directeur cantonal prévoit des possibilités d'extension de zones à bâtir par rapport au potentiel démographique défini par l'Office fédéral de la statistique. Donc nous sommes censés avoir un outil, le plan directeur cantonal, qui maîtrise le développement des bâtiments, de l'habitat, mais bien évidemment dans une proportion toute mesurée, puisque nous ne pouvons pas maîtriser notamment les investisseurs, les investissements et les banques qui font des prêts, banques qui sont également soumises à certaines contraintes au niveau de la FINMA et qui ne peuvent pas prêter pour des investissements immobiliers dans des zones où il n'y aurait pas de potentiel de louer ensuite ces biens ou de les vendre. À présent, le plan directeur cantonal, donc vous l'avez vu, il a été approuvé par le Conseil fédéral. À charge maintenant également aux communes de l'appliquer dans les plans directeurs, dans les plans d'aménagement locaux ou régionaux, ce qui permettra, dans une certaine mesure, d'avoir une maîtrise de la croissance des zones à bâtir par rapport au potentiel démographique. Potentiel démographique qui, je le rappelle, a été défini, par exemple, pour les villages jurassiens à zéro. Ça veut dire que les villages ont le défi de stabiliser la démographie, alors qu'actuellement, il y a une décroissance qui est observée. Donc avec ce zéro, cela laisse un potentiel de développement au village, potentiel limité. Et ensuite, les pôles qui sont un peu plus dynamiques au niveau démographique ont un potentiel plus élevé. Et c'est à travers cet outil que la Confédération, respectivement le canton et les communes, pourront, dans une certaine mesure, maîtriser l'élément que vous avez mentionné, donc le développement de l'habitat dans le canton.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Thomas Schettler est satisfait. Nous passons à la question orale suivante. Et pour cela, je passe la parole à monsieur le député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député de Montfaucon. Il est du groupe du PCSI.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres. Mieux vaut se blesser que tomber malade, jeune voix, vaudois et jurassien tondu. Je viens de citer le titre d'un article paru dans un magazine de défense des consommateurs. Pour la majorité des romans, un même traitement coûte plus cher s'il est facturé à l'assurance maladie plutôt qu'à l'assurance accident. Un lecteur du magazine s'est retrouvé avec entre les mains deux factures pour le même traitement. Dans sa main gauche, la version envoyée par erreur à sa caisse maladie, 272 francs. Dans sa main droite, celle envoyée à la SUVA, 229 francs. Précision utile, les mains gauche et droite citées n'ont aucune signification politique. Pourquoi diable aurais-je dû payer une quarantaine de francs de plus s'il s'était agi d'un cas de maladie alors que la prestation est la même? S'est-il demandé stupéfait. Suis bien entendu une explication qui tente d'expliquer l'inexplicable. Bref, je vous passe l'emberlificotement qui, au final, débouche sur deux constats. 1. L'unification des prix Tarmed est un leurre et un attrape-nigaud. 2. Les nigauds sont les jurassiennes et jurassiens qui en sont pour leur poche. Grand perdant, les cantons de Vaud, Genève et Jura sont les seuls chez qui les factures maladies sont plus coûteuses que les factures accidents. Ces différences cantonales ne semblent pas insolubles. Pour preuve, elles n'existent pas dans l'assurance accident. La raison est simple. Un article de loi qui ne concerne que cette dernière oblige à l'uniformité des valeurs de points dans tout le pays. Ma question. Le gouvernement, conscient de la problématique, que compte-t-il faire afin que les citoyennes et citoyens de ce canton ne soient plus les nigauds, les dindons de la farce? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Guerbert.
On retrouve Jacques Guerbert, ministre de la Santé.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi de vous dire, monsieur le député, en préambule, que votre question orale ne contient absolument aucune dimension d'actualité. Vous posez la question de savoir si le gouvernement est conscient de ces différences, mais évidemment que le gouvernement est conscient de ces différences. Et j'ose espérer que vous n'apprenez pas ces différences à travers l'article que vous venez de lire. Ces différences existent depuis la création de ces lois, notamment de la loi sur l'assurance maladie en 2004. Alors oui, vous avez raison, monsieur le député, il est parfaitement correct de relever que les règles en matière de primes, de franchises, de tarifs, de remboursement des prestations, d'indemnités journalières, de rente pour invalidité ou de rente de veuf ou de veuf peuvent fortement varier selon le régime d'assurance, la MAL, loi sur l'assurance accident, loi militaire ou loi sur l'invalidité, qui s'applique en fonction des différents cas. Il est effectivement préférable pour sa veuve de mourir d'un accident de voiture que d'un cancer en Suisse. Elle aura une rente plus élevée. C'est un fait, mais c'est un fait depuis mise en place de ces législations. Votre question, par contre, est extrêmement technique et elle aura une partie de ses réponses au prochain Parlement dans le cadre de la question écrite du député Montavon. Il est extrêmement difficile de répondre de cette technicité, d'expliquer cette technicité de manière orale. Le mélange entre les différentes bases légales, différentes situations que vous avez faites dans votre développement le démontre. En fonction des deux systèmes que nous avons, le TARMED pour l'ambulatoire et le Swiss DRG pour le stationnaire, en fonction également d'une prestation qui est effectuée en hôpital ou en cabinet médical en ville, en fonction des cantons ou encore en fonction des assureurs, on se trouve effectivement au minimum, avec une différence de tarif, de 6 différences de tarif. C'est au minimum, mais on peut se trouver à 10, à 15, à 20 différences. Et ce sont les différences de tarif. L'uniformisation dont vous parlez n'a rien à voir avec le tarif, ça a à voir avec le point lié au type de prestation. Donc c'est là qu'il y a une uniformisation au niveau suisse, c'est pas sur les tarifs, c'est sur les points par prestation. Le système, bien sûr, peut encore être amélioré. Dans le Jura, une consultation à l'hôpital coûtera par contre par point plus cher en accident qu'en maladie. 1 franc contre 89 centimes selon la LAMAL. Alors que la consultation en ville sera plus chère en maladie qu'en accident. 97 centimes versus 92 centimes. Pour les DRG, c'est beaucoup plus simple. Il existe deux valeurs de points uniquement, une LAMAL et une LALA, donc loi sur les accidents. Et généralement, la loi sur l'accident, la valeur au niveau de la loi par rapport aux accidents est plus élevée que la valeur LAMAL dans le cadre du Swiss DRG. Encore une fois, l'uniformisation n'a rien à voir avec ces tarifs. Ces différences sont la conséquence des différents systèmes et des différentes lois. Je termine, Monsieur le Président. Ces différences sont finalement expliquées intrinsèquement par les différences de système. Alors, est-ce que c'est choquant? Certainement. Est-ce qu'il y a des majorités au niveau suisse pour changer ces différentes lois? Ça se passe au niveau suisse et force est de constater qu'aujourd'hui, les majorités ne sont pas là pour un changement fondamental de système qui est certainement souhaitable et souhaité.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Vincent Hénin est satisfait. Et pour la dernière question orale, je passe la parole à Monsieur le député Raoul Yegui. La question ayant été posée, nous sommes arrivés au terme de ce point de notre ordre du jour.
C'est donc la fin de ces questions orales ici au Parlement jurassien. La séance continue, bien évidemment. Vous en retrouverez le compte rendu dans nos principales éditions. Merci de nous avoir suivis et très belle journée.